Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
RMC,
Alain Marchal, Olivier Truchot,
Les Grandes Gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, dans les GG, nous sommes avec Thomas Porcher, professeur d'économie, Joël Dagosséry, qui est coach de vie, puis l'éducateur en Seine-Saint-Denis, c'est Étienne Nibi qui nous accompagne. La suite des réjouissances jusqu'à midi dans les GG, dans les grandes gueules tout à l'heure. Nous serons avec le président d'SOS Racisme, Thomas Sopo. Dominique Sopo, avec lui pour reparler de cette opération testing sur les plages de la Côte d'Azur à Juan-les-Pins. On a les communiqués, les réactions aujourd'hui de ces plages qui ont été accusées d'être racistes, de discriminer des couples blancs, noirs et maghrébins, ou plutôt d'avoir discriminé les couples noirs et maghrébins et d'avoir laissé rentrer le couple blanc. Quelle suite judiciaire il veut donner à cette affaire, Dominique Sopo? Il sera avec nous. Ce sera l'occasion aussi de discuter avec lui de la rentrée politique qui s'annonce, comment peut-on dire, haute en couleur, un peu sous tension avec le grand débat sur l'immigration, le droit de vote aux étrangers, la proposition de loi de Sacha Houlier. Bref, Dominique Sopo, président des SOS Racistes, tout à l'heure avec nous à midi moins 20. On a un GG 7 et match à 11h sur ce maire d'Arbois-en-Bugey dans l'Ain qui décide de couper l'eau entre 8h30 et 11h, entre 14h et 19h pour faire des économies. Alors il y a débat au sein de ses habitants, il y a débat dans les grandes gueules. Est-ce qu'il a raison? Il faut prendre des mesures radicales. Oui, non, non pour Joël et Thomas. Oui pour Étienne qui se retrouve seul contre tous. Les amis, c'est un combat, un match qu'il va livrer tout
c'est
à l'heure.
Toute ma vie, ça, mon ami.
Dans le GG. Dans
moi,
le
je suis avec Étienne. Hein.
Dans le GG, c'était. Ah, t'es avec Étienne.
Je suis avec Étienne.
Ah, pardon. D'accord, t'as changé, t'as tourné.
C'était bien de gauche.
D'accord, t'es avec Étienne. Alors, c'est Joël qui va être seul contre tous. On en parlera tout à l'heure à 11h. À 11h moins 20, le journal du off, Rachida Dati aux universités d'été de la France Insoumise. Elle va aller ferrailler. La maire du 7e arrondissement de Paris, puis on a le quiz des GG.
Madame Hidalgo.
Présenté par Paul Lassen. Bah, en attendant, on parle recrutement sans formation dans les crèches dans la petite enfance. Il y a un constat, ça c'est factuel. Aujourd'hui, la moitié des crèches font face à un manque de personnel auprès des enfants. Et puis on a cet arrêté qui est sorti le 4 août dernier au journal officiel, en catimini, au cœur de l'été et dont on parle beaucoup maintenant depuis quelques jours. Cet arrêté permet le recrutement des personnes sans ce qu'on appelle les qualifications normalement requises. Il s'inscrit dans un cadre de pénurie locale, c'est-à-dire que les autorités, les maires, les directeurs de crèche pourront, si vraiment ils sont face à un manque de pénurie, prouver, avérer, recruter des personnes sans formation. Mais il y aura obligation d'accompagnement dans l'emploi pendant 120 heures. Ce qui fait râler aussi les syndicats. Écoutez, on est déjà en sous-effectif, mais en plus, on va nous demander de former des personnes. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est inquiétant, au contraire, pour vos enfants, pour nos enfants? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules. Joël Dagosséry, qu'est-ce que tu en penses?
La France du sparadrap. Ah bah oui, là ça colle, on nous met du scotch, du sparadrap partout, ça fuit, il y a des fuites de partout. Vraiment, ça commence. En tant que mère, honnêtement, je suis absolument pas pour cette mesure. Alors c'est un peu paradoxal parce que on manque de moyens. Donc si on manque de moyens, enfin de personnel, du coup, on risque d'avoir moins de place et du coup. Quand il y a moins de place, c'est la mère qui trinque parce que c'est elle, en général, qui prolonge son congé parental ou qui va arranger son emploi du temps pour rester à la maison quand elle n'a pas de mode de garde. Donc ça, je l'entends bien. Mais avant tout, la sécurité des enfants. Là, dernièrement, on a beaucoup de scandales de crèches, sur des crèches, sur des maltraitances sur enfants.
Avec des personnels formés, hein.
Des personnels formés, exactement. Mais qui sont à bout, justement. Ouais. Qui sont complètement à bout. Parce qu'on manque de moyens. Donc, pour moi, effectivement, peut-être que ça peut être une mesure d'urgence, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est fait pour que, justement, un jour, on se relève de cet état de pénurie, qu'il n'y a rien qui est mis en place et qui va me rassurer sur le fait que dans un an, dans deux ans, on aura des crèches qui fonctionnent avec du personnel, avec des enfants qui seront bien traités, et etc. Donc, je suis pas... Autant j'étais pas sur les job dating là pour les profs dans l'académie de Versailles, je crois, on faisait des dating pour recruter des profs. Pareil sur la petite enfance. Je crois pas que tout le monde puisse s'occuper d'enfants. Je suis désolée. Moi d'ailleurs, je peux pas. Hein, j'ai déjà du mal avec ma propre fille. Donc je peux pas. Non mais ouais. C'est vrai.
Non mais c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est un vrai travail.
L'aveu, tu sais.
Mais non.
Une déjà, vous imaginez.
Non
je
mais
n'y
parce
arrive
qu'on
pas.
Croit ouais. Tellement que oh mais les enfants, comme on en a quasiment tous, donc on dit bah c'est facile, t'as qu'à prendre quelqu'un, la passante dans le coin. Elle a peut-être deux gamins à la maison. Elle peut bien s'occuper de 10 gosses dans la crèche. Mais non, je crois pas que ce soit comme ça. Je crois que c'est une vraie formation. Je crois que c'est un vrai état d'esprit aussi. Et ça vraiment, ce type de rustine, moi je peux plus.
Voilà. Rustine pour Joël Dagosséry.
Ah bah oui.
Je rejoins complètement ce que dit Joël. Surtout que c'est quand même pour les parents, quand tu amènes ton enfant à la crèche, émotionnellement, c'est quelque chose de difficile.
Ouais.
Moi, les puéricultrices que j'ai connues quand mon fils a été à la crèche, elles faisaient un travail mais magnifique pour rassurer les parents. Elles voyaient tout ce qui se passait parce que c'est elles quand même le premier signe d'alerte. Elles se rendent compte, voilà, quand il y a des problèmes de motricité, quand il y a des problèmes même de peau, enfin, tout, elles t'expliquent tout, elles voient tout. Donc, il faut quand même une formation. Enfin, un enfant ne parle pas. Souvent, il ne marche pas encore quand il est à la crèche. Pour manger, ce n'était pas encore très, très clair. Enfin, le compte rendu du soir, on l'attend tous avec impatience. Donc, il faut quelqu'un qui soit formé et puis quelqu'un qui puisse voir tout de suite s'il y a quelque chose qui cloche. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, elles faisaient grève, souvent les puéricultrices, parce qu'elles disaient qu'on allait leur donner encore plus. Il s'agissait, je crois, il me semble-t-il, de leur donner plus de 10 bébés par puéricultrice, ce qui était pour elles, me disaient, ingérable. Vous voyez, moi, je me souviendrai toujours qu'il y avait une jeune qui avait déjà un problème au bras, qui avait une tendinite, qui ne pouvait plus soulever les bébés, parce que c'est quand même des poids qu'on soulève quand même. Et elles étaient déjà cassées. Donc là, pareil, ça fait des années qu'on sait que tout le monde veut une place en crèche. La première chose quand t'as un enfant, c'est que tu vas à la mairie et la première chose qu'on te dit, c'est il n'y aura pas de place pour tout le monde. C'est ça. Et donc là, se met, comme dans toutes les économies de pénurie, en place un espèce de système où tu fais du forcing, où tu vas à la mairie tous les jours, où tu appelles les crèches pour essayer d'avoir ta place. Et toutes les études montrent qu'en collectivité, on s'épanouit beaucoup mieux. Les études suédoises, beaucoup mieux.
Quand tu es en crèche, en collectivité.
En collectivité. Ouais. Voilà. Et là, rien n'est fait. Et maintenant, là, on se dit, oh, bah, on va recruter comme ça des gens sans diplôme. Et je suis même pas sûr qu'en faisant ça, ils aient les effectifs qu'ils veulent atteindre. Vous voyez, essayer de faciliter ça parce que pour eux ce serait un problème de formation. Et je suis même pas sûr qu'ils aient les effectifs. On sait très bien ce qu'il faut. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire, c'est un métier important. Donc, il faudrait peut-être revaloriser ce métier. Il faudrait plus de moyens, plus de personnel. On en a pas. Tout le monde veut une place en crèche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, soit on donne plus de bébés aux gens, soit on ne bouge pas l'espace et on remplit plus l'espace par les bébés. Soit on recrute comme ça les gens sans formation en espérant que ça va.
Sans formation et avec un petit accompagnement en fait sur le terrain, quoi. De 120 heures.
Voilà.
Étienne.
Bah, c'est 9 mois, 3 ans, hein, 2 ans et demi, 3 ans, parce qu'ensuite il y a l'école. Donc il y a les petits bébés et puis il y a les tout jeunes enfants qui marchent, etc. Et on sait que c'est un âge hyper important. C'est un âge très important. Beaucoup de choses se jouent à cet âge-là, notamment sur le développement de l'enfant. Moi, je suis partagé parce que je me rappelle qu'à un moment, on offrait la possibilité à des mamans qui avaient eu 3 enfants de devenir institutrice, par exemple, avec un petit examen pour devenir institutrice, parce qu'on estimait que pédagogiquement, parce qu'elles avaient eu 3 enfants, on estimait qu'elles avaient une certaine compétence à devenir à s'occuper d'enfants. C'était déjà un peu bizarre, mais bon, visiblement, ça a quand même un peu fonctionné. Là, j'imagine que des gens qui ont eu des bébés peuvent être formés pour s'occuper de bébés. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est s'il y a un enfant, s'il y a un bébé ou un petit jeune enfant qui a un souci, que ce soit un souci...
Tu appelles.
Si. Non, mais...
Tu appelles, faut... tu dis, non, écoutez, là, regardez, tu sais, comment ça se passe avec cette
ça enfant. Demande d'être très
sûr.
Fin. Tu vois, quand je vois, par exemple, j'ai souvent des discussions, parce que je suis éduque, donc j'ai souvent des discussions sur l'éducation, sur des échanges avec des parents. Quand je vois que très souvent... la réponse à un dysfonctionnement d'un enfant, c'est uniquement ce qu'on nous dit, ce qu'on appelle l'éducation, mais qui en réalité est la violence, c'est-à-dire c'est toujours uniquement la punition, uniquement la frustration, parce que on va lui apprendre à bien se tenir, comme si c'était un chien ou un chat, c'est-à-dire en apprenant, en donnant des habitudes.
Oui.
Et moi je me dis, la pédagogie c'est tellement plus complexe que ça, c'est tellement plus de faire passer quelque chose d'un sentiment d'amour, entre guillemets, entre un adulte et un enfant, tout ce qui peut se passer, le lien qu'ont les bébés bébés et les petits-enfants à leur nourrice, et au sens large du terme. Mais alors, et quand elles retrouvent, quand ils retrouvent, de, quand on est parent, le matin, quand t'amènes le gamin, tu vois bien s'il est heureux bien de, sûr, retrouver, hein. De retrouver ses éducateurs de jeunes enfants ou ses puéricultrices. Et tu te dis, ah oui, il est bien, il est épanoui à cet endroit-là, tu vois. Et ça, c'est ouais. tellement important que j'ai peur que ça va pas être général, mais il suffit de quelques conneries pour que ce soit grave. Voilà. Donc, c'est ça le problème.
Joël Dagosséry.
Pour moi, en tout cas, c'est pas un lieu de garde uniquement, c'est-à-dire un endroit où bien tu poses ton enfant non. parce que t'as besoin d'aller au travail. C'est un lieu de développement de l'enfant. Donc, oui. il faut des personnes qui vont lui parler correctement.
Oui, bien sûr, mais les équipes professionnelles seront là. C'est du complément, puisqu'aujourd'hui, tu as 50% des crèches des 8000 établissements qui manquent de personnes. Donc, de toutes les manières, il faut pallier ce manque.
Mais bien sûr, dans l'urgence, pourquoi pas? Enfin, moi, je l'entends. Le seul truc, c'est qu'est-ce qu'on fait de manière pérenne? Est-ce qu'on est sûr qu'on est sur le chemin de retrouver des effectifs? Visiblement pas, parce qu'on a un problème de recrutement. On a un problème de valorisation de ce travail. Mmh. J'écoutais un auxiliaire de puériculture qui disait que il avait pris 7 ans à sortir du SMIC. 7 ans à sortir du SMIC. Non, mais tu te rends compte? Donc, t'imagines comment tu peux attirer des jeunes vers ce métier? C'est pas possible. Donc il y a vraiment un problème de comment est-ce qu'on va revaloriser ces métiers, comment est-ce qu'on va donner envie. Et quand tu dis à ces gens-là que en fait on peut prendre le passant, j'exagère mais bon, ou ouais. la passante pour garder des enfants, mais tu t'es pas en train de lui dire que ton métier ça vaut quelque chose. Ouais. T'es en train de lui dire mais en fait ça vaut rien ce que tu fais. Hein. Ouais. Tu sais qu'on peut prendre celui d'à côté, il peut faire la même chose.
Donc ça veut dire qu'on est en train
l'ubérisation.
On est en train de trouver des auxiliaires d'enfance au rabais quoi en fait.
Mais bien sûr. Et il y a quand même une différence énorme en plus entre la reconnaissance que l'on porte à ces gens quand on amène notre enfant etc. et la façon dont dans la société les paye, ouais. les rémunère et les traite. Et c'est ça qui est problématique. Et on a l'impression que c'est un métier en fait que tout le monde pourrait faire, qui n'est pas usant, et parce ouais. que les gens font ça parce qu'ils aiment les enfants. Mmh. Voilà. Et alors que c'est faux, c'est un métier qui est usant, c'est un métier qui est fatigant. Quand t'as 10 enfants comme ça à gérer, c'est un métier à responsabilité.
Oui, mais métier à responsabilité, c'est un métier usant, c'est un métier fatigant. Oui, mais regarde Thomas, alors c'est peut-être une question de salaire, mais peut-être que pour des mamans ou des pères qui ont eu 3, 4 enfants ou même oui. ne serait-ce qu'un enfant, si tu veux, qui aujourd'hui peut-être sont à mi-temps ou aiment s'occuper des enfants ou sont bénévoles dans des associations.
Oui, on l'a fait avec les instituts.
Mais voilà, donc ouais. ils vont peut-être se dire, je vais aller voir, je vais aller aider.
Il y a des clients qui font ça déjà.
Non, mais attends, ce que je veux dire, c'est que quand tu fais la démarche toi-même d'aller vers une crèche, c'est que c'est quelque chose que tu ressens. Tu vois, tu as envie d'aller aider vers les enfants en te disant
pourquoi tu passes pas le diplôme,
il y a un besoin,
pourquoi
tu passes pas le diplôme. Ça peut créer une vocation derrière, oui, si tu veux aussi.
Ouais, en fait, il y a des crèches associatives qui le font.
Toi, tu parles d'ubérisation et moi, je trouve qu'on manque peut-être aujourd'hui de souplesse. C'est-à-dire qu'on a toujours été, en France dans des espèces de cadres bien définis et très bien où il faut recruter, tu as raison, du personnel qui soit formé, qui ait les compétences. Mais peut-être qu'on s'est privé à côté de ça de gens qui avaient de la bonne volonté. Regarde, la France, c'est un des pays où il y a le plus d'investissements associatifs, justement, de bénévolat, où on veut aller vers l'autre, des pays européens où on est tourné vers l'associatif. Peut-être qu'aujourd'hui.
Il y a déjà des crèches parentales.
Oui,
il y a des crèches parentales aujourd'hui qui fonctionnent.
Et il y a des femmes. Et il y a des femmes qui, chez elles, font crèche à domicile.
Oui, il y a des crèches parentales.
Ça existe.
Est-ce que, par exemple, ceux qu'on exige des nourrices agréées, on pourrait pas au minimum l'exiger pour les personnes qui viendraient travailler dans une crèche, c'est-à-dire qu'il y a quand même
parce que de toute façon tu seras avec une équipe. Attends, Thomas Porchette,
moi je pense que c'est pas pareil. Par exemple, tu peux être étudiant en troisième année de médecine ou d'économie par exemple et donner un cours particulier de 2 heures par semaine à un enfant. C'est pas la même chose que d'être prof,
c'est vrai.
Parce que que de gérer une classe de 30 dans la longueur, dans la continuité, dans la semaine. Tu vois, les crèches, comme tu dis, associatives, là, les parents font 2 demi-journées par semaine. Bon, une demi-journée, là, tu peux être bien, c'est très bien. C'est pas pareil que de faire tous les jours pendant 200 jours dans l'année. Où là, il peut y avoir une erreur, c'est dramatique, là. Oui. Donc, c'est pas la même chose. C'est pour ça que, moi, je pense que la différence entre ça, c'est justement la formation, etc. Et puis après, la question, après, à se poser. À un moment, pourquoi, justement, il n'y a pas suffisamment de vocation dans ce travail-là? Est-ce que c'est une question de salaire? Est-ce que c'est aussi parce qu'il n'y a pas de recrutement, parce qu'il y a un manque de moyens? Voilà pourquoi aujourd'hui tout le monde ne peut pas avoir une place en crèche, parce qu'il y a vraiment un problème là-dessus aussi. Et qui est-ce qui en pâtit? Elle l'a très bien dit, Joël. C'est toujours les femmes. C'est les femmes qui sacrifient. Et là, il va y avoir après, parce que quand il n'y a pas de place en crèche, qu'est-ce qui se passe? On doit prendre une nounou. Une nounou, c'est 1000 euros. À peu près par mois. Et donc là, il y a toujours un arbitrage qui se fait dans des bas salaires en disant, 1000 euros, mais si toi tu arrêtes de travailler, comme tu gagnes légèrement au-dessus, c'est mieux, il est avec toi, donc tu sacrifies ta carrière. Voilà. C'est un problème, ça, c'est quand même un vrai problème.
On va continuer d'en discuter dans un instant, en allant du côté du département de l'Essonne, du département de l'Allier, avec Ophélie, qui est assistante maternelle, avec Jennifer, qui est auxiliaire petite enfance. Aujourd'hui, permettre d'accéder à une crèche en tant que aide, mais sans formation, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Est-ce que ça peut être inquiétant pour les enfants? 32-16 pour venir en parler avec les GG, avec les grandes gueules. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à midi, il est 10h15.
RMC,
9h30,
les grandes gueules,
Alain Marchal,
Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, avec Étienne Liebig, Joël Dagosséry, avec Thomas Porcher. On discute aujourd'hui de cet arrêté paru au Journal officiel au début du mois d'août, et qui entrera en vigueur à partir du 31 août, et qui fait qu'aujourd'hui, pour pallier le manque de personnel dans les crèches, on pourra aller travailler en crèche sans avoir été formé pour s'occuper de cette tranche d'âge. C'est Jennifer qui va en parler avec nous. Elle nous appelle de l'Essonne. Bonjour Jennifer.
Bonjour.
Avant de discuter, simplement présentez-vous. Vous avez 27 ans, c'est ça?
C'est ça.
Vous êtes auxiliaire?
Auxiliaire petite enfance.
En crèche donc?
C'est ça, tout à fait.
Depuis combien d'années?
Ça fait plus de 6 ans.
Plus de 6 ans. Et vous gagnez combien?
Le SMIC.
Le SMIC. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de voir arriver ces personnes en complément avec vous, alors?
Alors, pas du tout.
Pourquoi?
Parce que ça veut dire qu'il faut les former, il ne faut pas les laisser seuls avec les enfants.
Oui, bien sûr, faudra les former un peu. C'est-à-dire qu'ils seront en appoint de votre équipe, puisqu'aujourd'hui, vous manquez de monde. Enfin, peut-être pas vous dans votre crèche. Ils seront en appoint, en force d'appoint.
Oui, mais bon, c'est pas possible pour nous parce que, pour la confiance avec les parents, faut vraiment un accompagnement et c'est vraiment une mauvaise idée.
Est-ce que vous, aujourd'hui, vous manquez de personnes dans votre crèche?
Actuellement, non.
Bon, tant mieux, c'est une bonne chose. Vous vous occupez de combien d'enfants?
Alors, je m'occupe de 17 enfants.
Pardon?
Je m'occupe de 17 enfants.
Toute seule?
Pas toute seule?
Non, avec 3 personnes. Ah.
Voilà. Donc ça fait une moyenne de 5-6 enfants par personne, quoi, en fait, Jennifer, c'est ça?
Ouais. Et 6 enfants, donc on va demander aux gens, ils s'occupent de 6 enfants et en plus de former un personnel, un nouveau personnel.
Quand tu formes, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu fais tes tâches, tu l'as avec toi, tu lui montres.
Il y a les bébés, il y a les 1 an, 2 ans, 3 ans.
Moyens et les grands, ouais.
Mais aujourd'hui, Jennifer, ça c'est quelque chose, pour vous c'est une erreur de le faire?
Oui, c'est une erreur.
Vous n'auriez pas confiance, c'est-à-dire que vous auriez peur d'un accident ou d'une mauvaise intention, quelque chose comme ça.
C'est ça. Puis même quand on parle avec les parents, avec les parents, on discute, on échange, et puis on a des connaissances que des personnes qui n'ont pas de diplôme ne pourront pas comprendre.
C'est clair.
Quelle est votre formation, qu'on comprenne bien, Jennifer?
C'est un CAP de petite enfance.
CAP de petite enfance, qui consiste en combien de temps d'études?
2 ans.
Et puis après, c'est
des stages.
Après, c'est l'expérience qui vient au fil du temps, quoi.
Oui, c'est ça.
Merci Jennifer, merci d'avoir été avec beaucoup. Nous. Elle est contre, Jennifer. Ophélie, bonjour.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Et vous, Ophélie, qu'en dites-vous alors?
Je suis contre aussi.
Ah bah dis donc.
C'est
pourquoi
bien.
Pourquoi? Alors, je voudrais juste apporter une petite précision pour. Alors déjà, on touche pas 1000 euros quand on est assistante maternelle. Thomas, je sais pas où vous avez vu ça, mais on touche pas 1000 euros par enfant. Il faut avoir 3, 4, voire 5 contrats pour toucher 1000 euros. Et on n'est pas des nourrices, on est assistante maternelle agréée. On donne plus le sein aux enfants qu'on accueille. Voilà, petit rectificatif. Pourquoi je suis contre? Tout simplement parce que moi, pour être assistante maternelle, avant d'accueillir le premier enfant, j'ai dû faire une formation de 80 heures. Ouais. Avec une évaluation à la fin. Donc si l'évaluation n'est pas bonne, j'ai pas d'agrément. Que deuxièmement, ça fait des années qu'il y a des assistantes maternelles qui ne veulent plus exercer le métier parce que c'est compliqué financièrement avec la famille, les enfants, etc. et qui veulent rentrer en crèche et on leur dit non. parce que pour rentrer en crèche, il faut minimum le CAP petite enfance. Or, dans le quota de personnel de crèche, il faut savoir qu'il y a 50% de personnel préqualifié, donc c'est les éducateurs jeunes enfants ou les puéricultrices, 25% de personnel qualifié qui sont les auxiliaires de puériculture, et il y a 25% de personnel non qualifié qui est CAP petite enfance ou les assistantes maternelles. Ça fait des années et des années qu'on nous refuse l'accès aux crèches parce que quand on n'a pas le CAP petite enfance, alors qu'on a l'expérience.
C'est ce que je disais tout à l'heure. C'était... Voilà. Donc vous seriez plutôt pour le projet si, effectivement, on exigeait de ces gens d'avoir ce que vous avez vous-même, c'est-à-dire à la fois l'expérience les petits-enfants et la formation qui vous a permis d'obtenir l'agrément.
Oui, puis la vérification aussi du casier judiciaire, parce que moi, tous les 5 ans, quand j'ai le renouvellement de mon agrément, il est demandé l'extrait casier judiciaire, le numéro 2, donc le mien, mais aussi de toutes les personnes majeures vivant à mon domicile, mais également maintenant, depuis quelques temps, pour les mineurs à partir de 13 ans.
Il y a eu trop de cas.
On a eu le souci pour le métier d'assistante maternelle où Pôle emploi disait à des jeunes femmes, ou pas forcément des jeunes femmes, qui avaient 1, 2, 3 enfants, qui étaient chômeuses depuis. On leur disait, faites le métier d'assistante maternelle. Vous êtes chez vous, vous pouvez vous occuper des enfants. Bilan des opérations, on s'est aperçu que, tout le monde n'est pas apte, c'est ce que disait Joël, tout le monde n'est pas apte à s'occuper d'enfants. C'est une responsabilité. On a une épée de Damoclès au-dessus de la tête tous les jours.
Oui, mais bien sûr, mais ça se verra, ça, quand vous prendrez ces personnes 120 heures de formation, vous verrez à partir du moment où la candidate ou le candidat se présente. C'est quelque chose. Mais regardez, pour prendre un exemple extrême, la jeune femme qui a empoisonné le bébé du côté de Lyon, elle était assistante maternelle, elle avait tous les diplômes. Bien sûr, elle a eu un problème, mais seulement on l'a pas vu venir. Il y a peut-être des gens qui sont très bien, et moi je crains, si tu veux, que, et je comprends. Je comprends les inquiétudes, mais qu'on se prive aujourd'hui, dans un contexte de pénurie, d'une aide, d'une main-d'œuvre, de soutien dont on a besoin, Ophélie.
Il y a une pénurie chez les assistants maternels aussi. Il faut savoir qu'il y a aussi une pénurie chez les assistants maternels, parce que le métier n'est plus attractif. C'est ce que je disais quand Thomas disait qu'une assistante maternelle coûte 1000 euros.
Non, une nounou. Enfin, moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi, quand ils payent leur nounou, tout compris, ça leur revient autour de 1000 euros. Après, ils ont le crédit d'impôt, etc.
Mais qu'est-ce que vous entendez?
La nounou qui vient à la maison, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Donc, c'est une garde à domicile. Voilà. Et il faut pas oublier une chose, c'est que oui, ils font peut-être un chèque ou un virement de 1000 euros, mais derrière, ils ont des aides.
Bien sûr, ouais, bien sûr, voilà. Tout à fait. Ouais, vous avez raison.
Et ils ont crédit d'impôt. Donc,
tout à fait.
Donc, ils sortent pas 1000 euros de leur poche, ils font une avance, entre guillemets, de 1000 euros.
Bien sûr.
Mais le métier d'assistant maternel, c'est pareil, il n'est plus attractif. Pourquoi? Parce que, alors, il y a la pénurie de crèches, mais il faut savoir que les crèches, ça pousse comme des champignons. Moi, il y en a une dans ma commune qui va s'ouvrir à 500 mètres de chez moi d'ici 2023-2024.
Oui, on en a besoin, tant mieux.
Vous savez quand même que les assistants maternels, c'est le premier mode d'accueil en France.
Non, mais bien sûr, mais c'est pas incompatible. Je veux dire, il faut pas se mettre les uns contre les autres. Aujourd'hui, on a cette pénurie d'accueil. Donc, on a besoin de ces crèches qui s'ouvrent. Alors, il faut avoir le plus de garanties possibles.
Oui, mais est-ce que les assistants maternels...
Mais c'est important pour les parents aujourd'hui. Le père et la mère travaillent.
Quand vous savez qu'il y a des manquements dans des crèches, des murs qui sont moisis, de la maltraitance, qu'il y a des signalements qui sont faits auprès de la direction de la crèche, voire plus haut, qu'il n'y a eu aucune intervention.
On ferme.
Voilà, alors que chez une assistante maternelle, un enfant qui a un bleu, une suspicion de maltraitance, je peux vous garantir que dans les 48 heures, dans les 72 heures, vous avez les services de PMI qui viennent vous contrôler.
Oui. C'est normal. Bien sûr. Vous avez raison, ça, c'est une défaillance au niveau du contrôle à ce moment-là, Ophélie.
Excusez-moi, mais les expériences diverses sur les crèches, on a quand même affaire normalement à des professionnels. Il y a une direction... Il y a des gens qui sont formés, avec qui on a des échanges professionnels. Moi, je trouve que on a ces échanges-là de temps en temps avec les assistantes maternelles. On a un rapport un peu sympa de copinage, etc. Mais des fois, qui n'est pas très professionnel, je trouve. Et alors, ça dépend des assistantes maternelles, mais faut pas non plus généraliser. Il y a des assistantes maternelles, ça se passe très bien. Il y en a d'autres, ça se passe aussi moins bien. Souvent, les parents, on n'a pas trouvé de crèche, on est coincé, on sait pas, on est coincé avec les mômes et on n'a pas trop le temps de chercher des assistantes maternelles qui sont reconnues, etc. On fait un peu à la va-vite comme ça et au bout de 3 mois, faut changer le bébé de
certes maternelle parce que ça se passe mal, c'est pas non plus le paradis pour les parents.
Non, en fait. Non, moi, ce que moi,
Ophélie, juste une chose. Ophélie, votre rémunération, après je te donne la parole Thomas, votre rémunération, elle est de combien aujourd'hui en tant qu'assistante maternelle, Ophélie?
Elle est tout juste du SMIC avec 5 contrats.
Ouais. 5 contrats?
Oui.
Et vous avez.
Et c'est que des petits contrats parce que, bah voilà, les crèches, c'est bien, mais les crèches, elles font pas les horaires atypiques, hein. Personnel hospitalier, grande distribution, elle fait pas. Elle fait pas les jours fériés. Elle fait pas les samedis. Donc, aujourd'hui, le métier d'assistante, aujourd'hui, c'est une assistante maternelle qui n'a que des temps pleins, c'est que dans des grandes villes. Dans une petite commune comme moi, des temps pleins, quand vous en avez un, je peux vous dire que, entre guillemets, vous bradez, hein, parce que faut quand même savoir, voilà, faut quand même savoir que lui, enfin, le taux horaire minimum légal pour une assistante maternelle, le minimum légal, c'est 2,35 €, c'est 2,35 € net de l'heure.
Et Ophélie, vous êtes où est-ce que vous habitez dans l'Allier?
À Désertines.
Et vous vous occupez de combien d'enfants?
5.
5 au max. De toute façon, vous pouvez pas vous occuper de plus.
Si, on a le droit jusqu'à 6, mais c'est des dérogations qui sont nominatives, ou c'est par exemple quand on accueille une fratrie, voilà, pendant les vacances scolaires. Mais sur 6, mais attention, sur 6, on ne peut pas avoir plus de 4 enfants de moins de 3 ans.
D'accord.
Ouais. Donc on peut avoir maximum 4 bébés.
Ophélie, merci de votre témoignage. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité au GGO Grand Bien. Thomas, tu voulais dire, pardon, avant d'écouter Valérie qui va conclure notre discussion dans
les salles. J'ai l'impression que les assistantes, je dis ça, mais c'est ce que je vois autour de moi, donc j'ai pas fait d'études sur des grosses. Mais que les gens, en fait, se rabattent sur les assistantes maternelles quand ils ont pas de place en crèche. Voilà. Et que les assistantes maternelles se sont beaucoup développées, et je dis pas qu'elles font un mauvais travail, pas du tout, parce que, justement, il y a eu une pénurie
mais vous n'avez pas répondu du coup au problème de la pénurie. C'est bien beau d'être contre, de dire il faut pas, c'est dangereux, mais la pénurie, elle est là. 50% des crèches, 50% des crèches manquent de monde. À la rentrée prochaine, les parents vont se retrouver en disant qu'est-ce qu'on fait. Et finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire, Thomas? Tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder, ils vont voir chez la boulangère une annonce avec marqué nounou, et ils vont prendre une nounou. Et quand tu laisses ton gamin pendant la journée à une nounou, que finalement t'as découvert 25 minutes dans un entretien, finalement, est-ce qu'il vaut pas mieux une personne qui est volontaire et qui va elle-même se présenter dans un établissement?
Mais bien sûr, mais moi j'ai bien peur que ce soit pas que de l'urgence et que ça devienne.
C'est juste pragmatique.
C'est l'ubérisation.
Que ça devienne pérenne.
Ailleurs, c'est pragmatique, donc, mais par ailleurs, Joël a aussi raison dans le sens où on voit bien, l'autre jour on en parlait pour les policiers, on voit bien aussi que là on est en train de devenir précisément très américain dans notre façon de penser, parce que ça, ce mode de fonctionnement est hyper américain.
Il avait raison Macron, et son vœu s'accomplit, c'est l'ubérisation de l'économie. C'est l'économie de la pénurie. C'est-à-dire qu'on a des taux de natalité les plus élevés d'Europe. Putain, on pouvait pas prévoir qu'il fallait des crèches. Enfin, quand même. C'est le pognon.
Non, mais le problème, c'est le pognon. Voilà. Regarde l'autre jour.
C'est le pognon, tu te dis que une société qui traite mal ses hôpitaux, ses pompiers, sa petite enfance, quelque part, elle a un problème.
On a les chiffres des personnes, on a les chiffres, on est un des pays aussi qui vieillit le plus, par exemple. Et ça, tu peux pas dire qu'on pouvait pas l'anticiper,
c'est une bonne nouvelle.
Or, on voit bien, on est comme surpris.
Il nous faut des accompagnants des deux côtés de la chaîne, pour les personnes âgées et pour les enfants.
On est comme surpris que ça nous coûte un pognon de dingue. Mais effectivement, on le savait que le pays était vieux, et on le savait qu'on manquerait de jeunes pour travailler. Mais ça n'a pas non plus été anticipé.
Ouais. Joël, pardon, non, on écoute Valérie.
On a un problème sur les personnes fragiles, de toute façon, vieux ou petite enfance. On a un vrai problème. Moi, j'ai presque peur, parce que je me dis, mais en fait, on se dit, ceux-là sont inutiles. Nous, on va privilégier juste une petite partie de la population. Ceux-là, ils votent, etc. Enfin, je comprends pas pourquoi on a un problème à chaque bout de la chaîne, en fait, vraiment.
Nous sommes avec Valérie. C'est vous qui allez conclure notre discussion. Valérie, bonjour.
Oui, bonjour.
Valérie de l'Essonne.
Je suis dans 4SEM. J'ai travaillé pendant 14, voire 15 ans auprès d'enfants. J'étais auxiliaire de puériculture. Moi, au-delà du salaire, je parlerai des conditions de travail. J'ai beaucoup de collègues qui travaillent en crèche. Il y a une souffrance en crèche. Les éducatrices ont changé de catégorie. Donc, du coup, les auxiliaires se retrouvent pas toutes seules. Elles se retrouvent à 4 dans les sections. Quand il manque du personnel, elles doivent pallier. C'est-à-dire qu'elles doivent changer d'horaire. On vous téléphone à 7h. 7h30, tu dois changer d'horaire parce qu'effectivement, il manque telle ou telle personne. Et du coup, on se retrouve avec une directrice qui est puéricultrice et des éducatrices qui font le tour des sections. Elles ne s'investissent plus comme avant. Moi, j'ai travaillé et c'est pour ça que je suis partie des crèches, parce que les éducatrices, elles venaient, elles prenaient un groupe d'enfants. Il y avait une dynamique et justement, tous les savoirs des uns et des autres étaient au profit des enfants. Maintenant, les éducatrices sont chargées de préparer des projets pédagogiques. Elles font un peu de chicage auprès des auxiliaires.
Elles sont chefs de service, quoi.
Elles sont chefs de service. Et donc, du coup, sur le terrain, effectivement, on est assez nombreuses. Et vous savez, moi, j'étais auxiliaire et dire qu'on adore, c'est bien simple, les enfants, c'est une passion pour moi. C'est une vocation. Je suis ATSEM. Je travaille dans une école. Je travaille auprès des enfants de 3 ans, mais j'ai un réel plaisir d'y aller. J'ai un réel plaisir d'être auxiliaire.
Peuvent se présenter à candidature, ça peut être aussi un vrai besoin d'investissement, un réel plaisir aussi, Valérie.
Oui, tout à fait, mais vous savez, chaque année, dans les crèches, on a des projets. Alors, mettons, ça va être le repas, la sieste. Donc, ça veut dire qu'on a des réunions, on travaille.
Eh bien, vous l'associerez.
Oui, mais vous savez, est-ce que les éducatrices, est-ce qu'elles vont aussi s'investir? Il manque ce lien, en fait. Et ce qui fait qu'en fait, ça boosterait les équipes et ça mettrait les gens, en fait.
Ouais, voyez, Valérie, pardon, je comprends, hein, de prime abord, cette défiance, ou plutôt cette méfiance, ou allez, inquiétude.
Oui, inquiétude, mais pas méfiance.
Combien de gens font du bénévolat, même avec les enfants, ou accompagnent les enfants sans avoir de formation aujourd'hui? Moi, je me souviens des dames du catéchisme qui s'occupaient aussi des enfants, des minots.
Mais
c'était des gens qui faisaient de l'investissement, qui allaient par investissement, par envie, voyez. Et donc ces mêmes personnes, mais ces mêmes personnes, on va les retrouver aussi dans les crèches, et elles vont avoir une formation. Au moment de la formation, Valérie dira non, vous ne convenez pas, on vous garde pas. Enfin, faisons-nous confiance les uns les autres aussi.
Ce que dit Valérie sur l'organisation de la crèche est super intéressant, parce que ça rappelle un peu ce qui s'est passé dans les hôpitaux, où avec la pénurie d'infirmières, finalement, alors les aides-soignantes ont remplacé les infirmières auprès des malades, et les infirmières se sont retrouvées dans un poste de chef de service à organiser le travail, mais qui n'avait plus le temps d'intervenir.
Non, mais qui a besoin aujourd'hui de réorganisation, de revalorisation, de recrutement? Il n'y a personne autour de cette table qui va le dire.
On a fait des petits chefs partout. Le salaire n'est pas à remettre en cause, c'est surtout les conditions de travail. Il faudrait regarder pourquoi on a changé, pourquoi les éducatrices sont éducatrices, pourquoi elles ne sont plus auprès des enfants? Pourquoi elles n'ont pas cet investissement de dire,
on a refait des cadres, on a fabriqué des cadres et des chefs et des petits chefs partout, c'est un scandale.
Valérie, vous gagnez. Quand vous étiez auxiliaire, vous gagnez combien en auxiliaire périculture?
Je gagnais dans les 1600 euros à peu près. Moi, le salaire m'a jamais. Je trouvais que je gagnais ce que j'avais comme niveau d'études et ce que je méritais, parce que ça me plaisait. Mais à partir du moment où ça ne m'a pas plu, je suis partie, je suis ATSEM. Mais cette passion, les enfants, il faut l'avoir, parce qu'il faut se remettre en cause, il faut observer, comme le disait très bien un de vos collègues, il faut observer, faire les transmissions quand il y a des temps, c'est un travail de tous les jours. Effectivement, quand on soulage pas les équipes, même si elles ont la passion de leur métier, elles lâchent prise. Et franchement, j'ai beaucoup, beaucoup d'anciennes collègues qui sont en souffrance.
Mais je comprends.
Justement, ces éducatrices n'ont plus le rôle et on vous colle parce que vous avez un petit peu haussé le ton, on va vous coller un rapport où vous allez être. C'est ça qui ne va pas.
Vous avez raison, Valérie, aujourd'hui. Revalorisation, considération, c'est de ça dont ont besoin toutes ces professions. Que ce soit les policiers, l'hôpital, la petite enfance, les enseignants, on est.
C'est plus facile.
Attendez, quel est le point commun? Qui est l'employeur?
C'est l'État.
Voilà. Donc, il faut quand même que.
C'est à l'État. Souffrance au travail chez les fonctionnaires, c'est un truc qui est.
On a posé la question sur les réseaux sociaux, recrutement sans formation dans les crèches. Êtes-vous inquiet pour les enfants? Il me semble que ça va être sans appel. C'est un oui à 77%. Ouais. Dans un instant, le journal du off et le quiz des GG. Et dans le journal du off, Rachida Dati va aller au carton. Aux universités d'été de la France insoumise. On en parle dans un instant.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Thomas Porcher, professeur d'économie. Nous sommes avec Joël Dagosséry, qui est coach de vie, et puis le camarade Étienne Liebig, qui est éducateur en Seine-Saint-Denis. On y va pour le journal du off et le quiz des GG. avec notre coproducteur Paul Lassen, lui aussi atteint de cette fièvre capillaire.
Oui.
Toi aussi, ça a poussé en pleine nuit, c'est dingue.
Oui, mais ce qu'Étienne n'a pas dit, c'est que c'est un traitement que nous a recommandé Jérôme Marty. Notre médecin, et ça marche très très bien.
C'est-à-dire que ça a très bien marché sur vous, mais ça a raté sur Bruno Pommard, Jérôme Marty. Là, ça a été
on verra à la rentrée. Il y a des petites surprises qui vous attendent.
Un ratage total. Le quiz des GG avec Paul, c'est dans un instant. Le temps de passer par le journal du off. Le journal du off qui va nous amener à parler de la rentrée politique qui approche petit à petit et surtout de ce qui va se passer aux universités d'été de la France insoumise. C'est Rachida Dati, la maire du 7e arrondissement parisien, la maire Les Républicains, la grande gueule des Républicains. Et je la salue, je la salue parce que souvent Rachida Dati, je vous trahis un petit secret, fait son sport le matin ou si elle est chez elle à travailler ou si elle est sur son ordinateur, elle écoute et regarde Les Grandes Gueules. Donc, Madame Dati, on vous salue. Ouais, et on salue en fait cette initiative que d'aller aux journées d'été de la France insoumise. Et elle va aller débattre avec Hugo Bernalicis. Et elle va aller parler des questions de sécurité et de justice. Elle a raison d'y aller. Elle va pas être en territoire conquis. Mais elle est au carton, Rachida Dati. Elle a raison ou pas, Joël Dagostéri?
Je prends ma place. Je savais pas qu'elle était au casting.
Faites payer l'entrée, les gars, de la France insoumise. Vous allez faire ça le comble.
Ça change tout. Ça m'intéressait pas. Mais maintenant, ça m'intéresse. J'ai envie de voir ça. Non, mais, bien sûr. Bon, oui, elle a raison. Enfin, après, comme j'ai déjà dit, je ne sais pas si ça va beaucoup faire changer les avis des gens qui sont là et qui sont, à mon avis, adhérents à la France insoumise. Je ne crois pas. Mais après, le débat est toujours intéressant. Hein. Mais c'est vrai que Rachida Dati, ça a de la gueule. Tu vois, quand elle est dans les débats, quand elle va après les élections, on a tous envie d'aller regarder la chaîne sur laquelle elle va se trouver. Donc, parce qu'elle a, elle a cette façon de débattre, elle est impertinente, etc. Donc,
récemment, aux élections législatives, on l'a vu...
Elle est grande gueule, ouais. Sans langue de bois.
Avoir de vifs échanges, même avec Clémentine Autain de la France Insoumise, justement.
Ouais.
Thomas Porcher.
Ouais, je pense que les militants de la France Insoumise apprécient son franc-parler sur la forme, enfin, son parcours déjà, et puis son franc-parler, sa façon de débattre. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils lui ont présenté une invitation. Donc non, il n'y a rien de choquant. Et puis les partis s'invitent toujours entre eux comme ça. Les gens ont le droit d'accepter.
Reconnais, il y a quelque chose qui est assez paradoxal. C'est-à-dire que tout le monde, enfin, la classe politique dans son ensemble, tous trouvent la France insoumise insupportable. Alors, on entend des mots comme « ils sont à claquer ». Il y en a marre de leur attitude dans l'hémicycle. Mais en même temps, on a trois ministres, plus Rachida Dati, qui vont... Oui. Aller aussi aux universités d'été. Donc, c'est une force d'attraction aussi, la France Insoumise.
Tout simplement parce que, très sincèrement, je pense que les idées viennent de la France Insoumise. Les idées, après, on peut leur cracher dessus, on peut dire tout ce qu'ils veulent, on peut dire ils n'ont pas de cravate, ils sont sales, c'est des gangsters, c'est des bandits, c'est tout ce que vous voulez. Mais les idées.
Oui.
Viendront de la France, elles viendront pas de Monsieur Macron qui visiblement là, ça, on en parle ce matin. Ouais. Je veux dire, s'il y a des idées qui peuvent changer quelque chose à la France et la faire avancer, ça viendra. Elles seront récupérées par la droite, n'en doutons pas, mais ça viendra de ces
la
gens.
La faire avancer, ça c'est ce que tu penses, parce que les adversaires que disent
nombre,
non.
Même s'ils disent beaucoup de conneries, je dirais que dans le nombre de conneries qu'ils peuvent dire, il y aura automatiquement des idées intelligentes. Et par ailleurs, moi je trouve que Madame Dati, je trouve qu'elle s'abîme. Quand elle est obsessionnelle de la mairie de Paris et de la critique de Madame Hidalgo.
Bah c'est son adversaire.
Oui, mais c'est presque devenu un gag.
Non,
c'est-à-dire c'est devenu un gag.
Elle est opposante, elle s'est présentée contre elle.
Non, mais je te l'accorde. Mais c'est devenu un gag. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire une phrase. Tu l'interroges sur le temps qu'il fait ou sur le prix de cette caméra et elle te répond oui, avant Madame Hidalgo ça coûtait tant et maintenant ça. Oui. Je veux dire que à un moment il faut qu'elle fasse attention de ne pas tourner à l'humour parce que finalement ça fait rire dès qu'elle dit Madame on lui parle de n'importe quoi, c'est elle a une telle haine je veux dire tellement profonde pour Madame Hidalgo que on peut l'interroger sur n'importe quoi et nous ressort le coup de Madame Hidalgo. Donc je veux dire faut qu'elle fasse attention de pas s'abîmer là-dessus. Sinon évidemment, c'est quelqu'un d'extraordinaire. On l'a reçu plusieurs fois ici. Elle est cash. Elle dit ce qu'elle pense. Elle dit parfois en dehors des éléments de langage de son parti. Donc, on sent quelque chose de très personnel. Donc, elle est
ce type-là. Bravo à la France Insoumise parce que faire des invitations ou avoir proposé aux Madame Dati ou avoir accepté que Madame Dati, Clément Beaune, Olivia Grégoire, entre autres, aillent Marlène Schiappa aille aux universités de la France Insoumise.
à partir du 27, quel est le parti politique qui, de nouveau, va prendre, va capter l'attention, justement, de la rentrée politique? C'est la France Insoumise. Parce que tu vas vouloir voir ce que ça donne, les débats avec les trois ministres et avec, avec Rachida Dati.
Ils font leur taf. Et pas ce qu'on voit à l'Assemblée nationale depuis que...
Ouais. Allez, on va sur le quiz des GG maintenant.
En direct du plateau 208 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
Vas-y mon Paul, c'est parti.
Oui, je suis vraiment désolé puisque je vais commencer avec une mauvaise nouvelle ce matin.
Ah.
Avec un peu de nostalgie, hier, Alain, tu le sais, nous avons malheureusement appris qu'une de nos grandes gueules allait partir. Rassurez-vous les auditeurs, rien de grave. Mais après plusieurs années à débattre avec vous, elle a décidé de voguer vers d'autres horizons. De chroniqueur brillant, cette GG a sauté le pas pour se lancer dans le monde artistique. Alors je vois vos regards, vous vous demandez de qui je parle, mais pour vous éviter de vous faire chercher trop longtemps, je vous propose d'écouter son premier single, une reprise qu'il a sorti hier, et du coup essayez de deviner de qui il s'agit. Écoutez.
Écoutez bien.
Je me lève et je te pousse. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude.
Quel Gigi chante comme d'habitude?
Je remonte
d'habitude,
le drap.
J'adore que
tu
es froid. T'as la vidéo à
comme d'habitude.
Non,
moi plus jeune. Je n'ose pas chanter.
Plus jeune qu'Étienne.
Ouais. L'éloquence, c'est son truc.
Oui,
c'est plus Charles, pas mal
quand même pour Charles. Alors, c'est pas mal quand même.
Il a repris la chanson dans son entièreté. Je vous invite à aller voir son compte Instagram. Donc vous trouvez ça pas trop mal, Étienne, toi qui es un musicien de talent, tu produirais un album de Charles?
Bah, ou s'il chante des chansons originales, mais s'il reprend ce titre-là, non.
Ben Charles Consigny, c'est sur son compte Instagram. On va essayer de demander l'autorisation pour sortir le petit extrait vidéo.
Absolument.
Et promis, on vous le passe. Un petit commentaire?
Non, mais c'est...
Ça veut tout dire.
C'est étonnant.
C'est étonnant. Ça ne tombait pas.
C'est intriguant.
Il est
Charles, t'es meilleur avocat et dans les GG que... Non, laisse.
C'est bien, moi je trouve que c'est.
Mais il a raison.
C'est bien, il a raison de
s'amuser dans la vie.
Il a raison de s'amuser.
Tu verrais comme ça pousser la chansonnette et poster ça sur les réseaux sociaux, Thomas.
Ici, il a envie. Ouais, moi j'ai fait plein de trucs bizarres sur les réseaux sociaux. On fait tous des trucs bizarres. Oui. Donc là, il a poussé la chansonnette.
On a vu déboucher une bouteille avec un kiff.
Voilà, tu vois, on fait tous. Là, et ça lui a fait plaisir. Il a fait ça. Moi, j'aime bien sa liberté à Charles. On est en désaccord sur plein d'idées. J'aime bien, il tente la politique, ça marche pas, il tient des positions parfois contraires à son parti. J'aime bien les gens libres comme ça. Et c'est quelqu'un de libre et j'apprécie.
Suite du quiz.
Les GG, nouvelle question.
Les
GG. Pourquoi vit-on un remake des Dents de la Mer sur les plages françaises?
Ah, parce qu'il y a un film qui vient de sortir. Non.
Pas du tout.
Des noyades qui augmentent?
Non.
Il y a des requins
Ah oui, il y a des requins.
Non. Il n'y a pas de requin, mais il y a le retour d'un poisson qui avait complètement disparu.
Piranha ?
Non, le baliste.
Alors, le poisson mordeur.
Des piranhas, mais gaffe à vos jambes quand même, puisque c'est ce qu'on appelle, Alain, tu viens de le dire, le poisson mordeur. Et il y a beaucoup de vacanciers qui connaissent ça depuis des semaines et des semaines. 14 dents en haut, 8 en bas. Alors ces dents, elles peuvent quand même broyer des coquillages, des carapaces de crabes ou des oursins. Alors, rassurez-vous quand même, c'est surprenant. Ça pique un peu, mais ça fait pas très mal. Et ça ne présente pas de risque. Mais si vous vous faites mordre, ne soyez pas surpris.
Quelle taille il fait? Ça fait quelle taille?
Ça fait 20 cm.
Oui, et là, il y a eu beaucoup de gens qui se sont fait mordre.
C'est pas mal.
Et c'est à cause du réchauffement climatique que ces poissons se rapprochent.
Mais non, il n'y a pas de réchauffement climatique.
C'est vrai, j'avais oublié.
Arrête.
Mais je vous ai pas écouté les deux heures
parisiens.
Les grandes gueules, qu'a demandé la compagnie australienne aérienne Qantas à ses cadres supérieurs?
Ah oui.
De garder des bébés?
Non.
De sauter sans parachute?
Non. C'est un rapport avec la pénurie de main-d'œuvre.
Ah bah c'est ça.
Des faire bagagistes?
Absolument. Elle a donc demandé à ses cadres supérieurs de remplacer les bagagistes. Elle a même lancé un appel d'urgence. Et il manque une centaine de personnes. Les cadres qui accepteraient seront formés pour intégrer les aéroports de Sydney et Melbourne, notamment pour trier, scanner et transporter tous les bagages.
Contraire à ce qui se passe sur le terrain.
Ça leur montre un peu ce qui se passe.
Très bien.
Et tu as vu la pagaille cette année des bagages dans les aéroports. Quoi.
C'était horrible.
Pourquoi tu as été confronté?
Ah oui, c'était du grand n'importe quoi, j'ai jamais connu ça. me suis dit, mais on est.
T'as récupéré tes bagages ou pas?
Ah oui, j'ai récupéré, mais c'était posé au sol.
Malheureusement, avec cette robe là.
Mais je salue mon ami.
Il y a tous les gens qui étaient derrière Joël pour dire, elle est là la valise. Bah, allez-y, bah, je peux pas la soulever. Allez-y, mademoiselle.
Il y a toujours des bras volontaires. Hein.
Oui, c'est un dernier.
Ben non, on n'a plus le temps.
On n'a plus le temps. Bon, mais c'est toi qui veillais sur le chrono. Merci, mais monsieur Paul Lassalle. Hein. Dans un instant, merci avec les GG, avec les grandes gueules, une équipe oui, une équipe non, c'est Joël qui va se retrouver seul contre tous. Un maire décide de couper l'eau de son village pour lutter contre la sécheresse. On a l'équipe oui, il a raison, Étienne Thomas, contre Joël seul face au reste du monde. Et vous venez en débattre avec les GG, avec les grandes gueules.
RMC, 9h midi.
Les grandes gueules.
RMC, football. Samedi 4 mai à 15h, au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, le 4 mai à Montpellier, avec RMC.